Maï Durel, qui travaille en partenariat avec
Tristan Basso
pour le magasin Wood, entre autres.
Entre autres.
Ouais.
Où est-ce qu'on se trouve et quel est le projet en fait que vous développez ici? Parce qu'en fait, vous avez déjà une arcade et même une comment on appelle ça un spin-off à la jonction, on peut appeler ça un spin-off. Voilà. Et donc vous développez un autre projet, ça fait 2,5 projets ou 3, je ne sais pas comment concevez ça.
Ouais, plutôt 2,5.
2,5 alors.
Ouais, 2,5. Ouais.
Donc, est-ce que vous pourriez expliquer en tout cas où est-ce qu'on se trouve et qu'est-ce que vous allez développer ici?
Alors, on se trouve à l'usine Parker, à Carouge, chez nous, dans un 120 mètres carrés, avec un parquet super beau. Et voilà, en fait, on a décidé ici de faire plusieurs choses. En fait, à la base, ça va être un entrepôt de vêtements de seconde main, un entrepôt où on va trier beaucoup de choses, puisqu'on a énormément de marchandises. On va aussi la mettre en vente à des prix complètement
bas.
Ouais, voilà.
Ouais, le plus bas possible. Ouais.
Parce que, en fait, ça va être un peu un marché aux puces, mais à l'intérieur et avec une sélection beaucoup plus ciblée qu'au marché aux puces où tu peux trouver des fois dans un tac une pièce qui t'intéresse. Là, le but, c'est d'avoir des pièces que les gens y recherchent en général, mais en masse, mais avec toutes les mêmes conditions qu'au marché aux puces, c'est-à-dire que c'est pas lavé, c'est en l'état et puis ça coûte très peu cher comme aux puces. Et puis voilà, c'est un autre concept qu'une boutique. La boutique qu'on a où c'est plutôt lavé, mis sur cintre, il y a des gens qui vendent, tu payes une arcade. Enfin, il y a beaucoup plus de frais en amont et du coup, ça devient une boutique où tu es obligé de vendre un peu plus cher.
Pour amortir des frais.
Les vêtements pour amortir des frais. Et puis nous, ça n'a jamais été notre politique de faire des choses chères et du coup, c'est pour ça qu'on a recherché un lieu comme ça. C'était pour vraiment pouvoir faire plaisir aux gens, que les trucs y circulent, que.
Ouais, voilà,
les habits circulent, que ça se porte et ça se reporte, c'est pour lutter contre le fast fashion aussi, qu'on arrête d'acheter des trucs en masse, en production de masse et tout ça, et puis que c'est pas cher, c'est cool, c'est aussi un peu underground, enfin tu viens ici, c'est le bordel, mais tu peux trouver des trucs cool, et puis voilà.
Je me souviens que vous étiez venu une fois ou deux fois, je me souviens plus, à la permanence, pour présenter un peu votre projet et puis je crois que je vous avais proposé de venir faire un événement, enfin que c'était une des possibilités qui était donnée aux membres, particulièrement aux membres qui étaient en attente d'un espace, d'organiser des événements promotionnels pour un peu patienter ou pour déjà faire connaître leur activité ou pour tester en fait leur activité. Et je me souviens qu'en juin dernier, donc il y a un peu plus d'une année, vous avez fait une grosse vente sur tout un week-end, donc un samedi, un dimanche, si je m'abuse, ou peut-être juste
non,
un jour.
C'était un jour.
Vous avez fait une grande vente comme ça d'habits en vrac posés sur des tas, même le sol. Et donc vous alliez poursuivre ce concept-là, c'est ça?
Exactement. Bah, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'engouement. Pour le fait d'avoir vendu des choses en l'état, à même le sol, vraiment typiquement exactement la même chose que tu peux trouver aux puces, avec quand même une sélection d'habits sélectionnés, enfin voilà, triés, qu'on affectionne, qu'on aime bien, qu'on pense qu'il y a, c'est des pièces qui ont un certain charme. Et puis ça s'est très bien passé quand on a fait cette vente aux rues, les gens ils ont vraiment bien mordu, il n'y a pas eu énormément de passages, mais tous les gens qui étaient là ils étaient vraiment « waouh, c'est trop super, c'est trop cool, vous devriez faire ça, c'est même mieux que d'avoir une boutique où tout est… » Après, je pense qu'il y a des gens qui sont qui ont besoin que ce soit présenté, lavé, etc. Puis après, il y en a d'autres qui aiment vraiment tout ce qu'on appelle le dig, c'est-à-dire avoir vraiment un tas de fringues, et puis tu vas, et puis tu cherches la perle rare, et puis tu, tu pars avec, je sais pas, 5-6 pièces et puis tu as lâché 100 balles et puis tu es content. Et du coup, on s'est dit, ce serait vraiment cool de pouvoir faire ça. Puis vraiment, c'était quelque chose aussi de l'esprit d'avoir une espèce de flot continu dans le recyclage des vêtements. C'est-à-dire que c'est acheté et puis un peu vraiment que ce soit posé en l'état et puis qu'il y ait des gens qui soient d'accord de les teindre, de les retaper, de les customiser, d'y remettre un bouton, etc. Et puis qu'au lieu de courir chez H&M ou genre de grandes enseignes, qu'il y ait vraiment cet intérêt pour avoir son petit style à soi en ayant un petit peu d'envie de bricoler ou même de trouver des trucs tout à fait portables et puis de dépenser moins et puis voilà. Donc, c'est ça, un peu l'idée.
Il y avait aussi une idée là-derrière, c'était de montrer un peu l'envers du décor. Parce que les gens qui viennent à la boutique, en général, ils ne se rendent pas vraiment compte. Enfin, il y a tout un truc, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est peut-être un petit peu cher ce qu'on vend en boutique. Parce qu'ils vont chez Emmaüs, ils vont chez Caritas et tout ça. Puis, chez Caritas et Emmaüs, tout le monde sait qu'on donne les habits. Enfin, c'est des habits qui sont jetés, c'est une association... caritative et du coup
subventionné
ouais, et tout ça. Et du coup
c'est très important en fait cette nuance.
Ça et les gens ne le comprennent pas, puis quand ils viennent et puis que tu as une chemise à 20 francs, ils trouvent que c'est cher parce que peut-être que à Emmaüs et encore à l'époque c'était moins cher, mais maintenant nos prix sont tout à fait alignés à ce que tu peux trouver maintenant à Emmaüs, mais ils se rendent pas compte que nous en fait on est, je sais pas comment dire, mais on est deux personnes complètement indépendantes qui achetons la marchandise, qui la cherchons. On n'arrête pas de diguer tout le temps, parce qu'on sélectionne. Donc. Et puis, il y a tout le truc, tout est sale, il faut trier par style, par machin, il faut recoudre, il faut réparer les trucs, il faut les mettre sur cintre, il faut les étiqueter, nanana. Et puis, ici, en fait, on voulait aussi que les gens se rendent compte de ce que c'est. C'est pour ça que on disait avant que ça allait être aussi un entrepôt et un espace de vente, mais à l'arrache. Et puis, on va tenter de ranger un peu pour quand c'est ouvert au public, mais en même temps de laisser un peu en bordel aussi pour que les gens voient, en fait, se rendent compte que c'est ici que ça se passe. Ce qu'ils peuvent voir en boutique, il y a aussi un processus. Et puis, ils peuvent s'en rendre compte là et puis ils peuvent décider s'ils préfèrent se salir les mains ou aller dans un truc où c'est tout à fait...
Présentable
et puis ça conscientise les gens et puis ça les fait aussi choisir ce qu'ils aiment le mieux, enfin je sais pas, mais...
Moi je me posais la question en fait parce que pour préparer cette interview j'ai un peu regardé, j'étais en Californie puis je suis allée voir en fait des magasins de seconde main dont un qui est assez connu qui est une chaîne pour tous les, qui est devenue une chaîne
Buffalo Exchange
ouais. Et c'est autre chose, c'est une ancienne enseigne, ils ont commencé dans les années 70 donc c'est autre chose. Et j'étais étonnée parce que je sentais quelque chose que je sens quand je vais chez Wood. Bon, j'y vais pas très souvent, mais parce que je suis un peu paresseuse, je reste dans mon quartier. Pour les secondes, moi, je suis au paquet, donc je reste au paquet. Mais il y a quelque chose que je vois, en fait, qui se dessine dans certains magasins de seconde main. C'est une forme de plus-value qui fait que les gens vont venir. Un petit peu comme on va chez Gucci, plutôt que d'aller, je ne sais pas, chez Zara, même si on n'a pas l'argent. On va aller chez Gucci parce qu'il y a une histoire, en fait, autour de Gucci. Enfin, il y a une histoire que Gucci nous raconte, mais aussi une histoire qu'on se raconte par rapport à Gucci.
D'accord.
Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la fripe, parce que en fait, rien ne vous distingue de la vente en gros organisée par un magasin obscur qui en fait se trouve être la Migros ou H&M et qui vend des trucs en gros. Ça ne vous distingue pas non plus des articles qui peuvent être vendus à 1 franc ou 3 francs par ce même H&M directement dans ces magasins. Ça ne vous distingue pas non plus de Caritas. Et en fait, ce qui vous, enfin, en soi, quand on voit l'habit,
ouais,
a priori, c'est des habits qu'on pourrait trouver presque dans les quatre endroits.
Ouais, tout à fait.
Et en même temps, c'est un fossé en fait qui vous sépare de ces quatre espaces.
Tout à fait.
Même H&M est très différent des centres où on vend les trucs en gros, les enseignes bizarres qu'on voit des fois dans les dans les malls.
Ouais.
Des fois, il y a des magasins très bizarres avec des enseignes très bizarres et puis on ne sait pas trop ce que c'est. Puis en fait, derrière, on apprend que c'est en fait le même.
Une grosse boîte.
C'est très différent et j'ai l'impression que les gens vont venir parce que justement, c'est vous. Et parce que c'est votre enseigne, parce qu'il y a une histoire qu'on se raconte à propos de vous et puis de votre enseigne en fait. Et moi, je voulais justement, moi, c'est l'impression en fait que j'ai. Et vous verrez, je vais revenir en fait sur ERU et puis en fait sur tout ça. C'est que moi, je voulais parler de votre travail artistique, de vous en tant qu'artiste. Ce qui fait que vous êtes aussi ici, parce que dans ce cas, on pourrait faire venir une autre enseigne de Fripp, mais en fait, vous avez cette plus-value qui est votre côté artistique. Alors, j'aimerais que vous me parliez un peu de ce que vous faites tous les deux en dehors et qui nourrit en fait aussi votre pratique.
Alors, moi, pour ma part, vu que j'ai accès à énormément de vêtements, d'époque passée, etc. Du coup, moi, j'ai trouvé ça, vu que je suis de formation couturière, je travaillais au Grand Théâtre pendant très longtemps, j'étais assistante de la chef d'atelier costume, donc j'ai une certaine connaissance de l'histoire du vêtement, disons. Je trouvais ça intéressant de voir passer ces vêtements, puis il y a vraiment certains vêtements, je me disais, ah non, mais c'est la coupe de ce manteau ou ce pantalon, c'est vraiment dingue, les pinces, elles sont comme ci, etc. Puis du coup, j'ai eu envie de m'inspirer de ces vêtements, voire de les reprendre, les customiser un tant soit peu, les faire patronner par des anciennes couturières du Grand Théâtre qui travaillent en collaboration avec moi, et de faire des petites collections comme ça, en revisitant des coupes qui ne sont pas du tout d'actualité, avec des choses, des choses qui me plaisent de toute façon, mais des années 70, 80, comme ça, même 90. Et puis ça m'est venu parce que je voyais passer tous ces fringues. Et puis il y a vraiment des pièces où j'étais, ah non mais ça c'est vraiment dingue, ils ont fait ça, ils ont monté ça comme ça, ils ont fait ça comme ci, le patron, la manche, machin. Et puis ça, le fait d'avoir dealé avec toute cette fripe et avoir vu tous ces vêtements, ça m'a donné envie de faire ça. Et j'ai eu accès aussi à pas mal de métrages de tissus, de coupons de tissus, en étant en puce et aussi avec des gens avec qui je travaille. Et puis du coup, je me suis dit, tiens, je vais réutiliser ces tissus qui sont des stocks de tissus d'avant, qui ne sont pas du tout d'actualité et qui ne sont pas faits en Chine, etc. Et du coup, j'ai réussi un peu à assembler ces deux choses ensemble. Et puis, j'ai fait trois petites collections sous le nom de Bande à part. Et voilà. Et donc, ça, c'est en parallèle de justement l'activité, disons, plus commerciale de Wood. C'est de pouvoir un peu réutiliser mes connaissances de couture et puis de refaire je dirais pas que c'est un label, mais un peu une expérimentation comme ça. Voilà.
Ouais, c'est cette plus-value-là en fait dont je veux parler. C'est pas forcément le côté institutionnel, je suis couturière, je suis styliste, mais plutôt les choses que vous faites ensemble qui résultent de votre association. Moi je pense surtout à votre promo que je trouve très normal, naturel, c'est un geste naturel. Voilà, on n'a pas forcément d'attaché de presse, on n'a pas forcément envie d'avoir un attaché de presse, donc on fait les trucs nous-mêmes. Et en même temps, on ne peut pas faire ce genre de choses si on n'a pas certaines compétences. Donc quelque part, votre attitude d'artiste, enfin vos compétences d'artiste, elle se retrouve en fait là-dedans.
Ouais, complètement.
Et moi, je pense que ça joue énormément en fait dans le rayonnement aussi que vous pouvez avoir.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je pense que ouais.
Mais c'est pas juste de la promo, c'est quelque chose de vivant parce que ça peut s'arrêter demain en fait. Parce
ouais, alors, que, complètement, voilà, complètement.
Si vous partez en vacances ou si vous tombez malade ou je sais pas quoi.
Ouais.
Ou si votre caméra elle tombe dans l'eau et puis il y a pas les ronds pour s'acheter une caméra, on fera avec un autre truc et puis.
Non mais alors ça, Tristan et moi on est assez très compatibles. Enfin on est vraiment. Moi, il a énormément de facultés à faire du montage vidéo, etc. Moi, j'ai pas mal d'idées. Et puis, l'un dans l'autre, on fait absolument tout nous-mêmes. Le graphisme, moi, je dessine. Enfin, lui, il fait le montage. On est sans arrêt en train d'expérimenter des trucs, envie d'avoir des idées, etc. Et puis, Ça, c'est aussi quelque chose qui nous fait bien délirer. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des choses très plan-plan, moi, je sais qu'au début, on a fait la page Instagram de Wood. J'étais un peu frustrée parce qu'il fallait... Instagram, il faut aller toujours très vite. Il faut toujours faire de la promotion en continu. Et puis moi, j'étais très frustrée parce que moi, j'avais envie vraiment de faire des jolies photos sur des jolies filles dans des lieux très... Enfin, que ça évoque quelque chose, que les choses, elles soient assemblées avec des silhouettes, avec chaussures, chapeaux, lunettes. Enfin, quelque chose qui soit un peu cossu comme ça. Et puis, il y a des fois où Tristan me disait « Ouais, non, mais... Là, il faut aller plus vite, enfin, il faut juste poster. Et puis maintenant, on a réussi à trouver un espèce de consensus où des fois, on s'amuse à faire ça. Ça prend plus de temps de faire des choses sur des fonds verts, de faire de la vidéo ou de la photo. Mm-hmm. Et puis, il y a des fois où on fait les choses plus en mode tout à fait promotionnel. Mais quand on a le temps et quand on a vraiment tout d'un coup l'envie et de faire un truc et qu'on a l'idée, je pense qu'on aime bien délirer avec des supports un peu plus créatifs, que ce soit la vidéo ou... Ou même, la photo, le dessin. Mm-hmm. Puis ça, c'est sûr que les gens, ils sont... Souvent, on a des très bons retours de ça. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous disent « Ouais, c'est cool ce que vous faites. J'ai trop aimé la petite vidéo, machin. »
Non, justement, moi, c'est vraiment de ça. T'as pas parlé de ce que tu faisais. Je sais ce que tu fais, mais je voulais l'entendre.
Non, mais je sais pas. Mais j'ai juste envie de dire par rapport à Maïe aussi. Des fois, c'est peut-être bien de parler de l'autre aussi. C'est peut-être plus simple. Mais que... Elle chine depuis qu'elle a, je sais pas, 18 ans ou même avant, j'en sais rien. Juste pour dire pourquoi on en est là aussi, c'est qu'elle a toujours fait ça, elle a toujours baigné. Pour moi, en fait, ce truc qui nous a amené à faire ça, à être ensemble et qu'on aime bien faire ça, je sais pas comment l'expliquer, mais je pense que c'est culturel. Ça revient à ta question, en fait. Je sais pas, moi, je saurais pas dire pourquoi je fais ça ou pourquoi j'aime. J'aime faire ça, mais tout ce que je pourrais dire, c'est que, si tu veux, ce que j'ai aimé faire dans ma vie, c'est de la photo, c'est le cinéma ou la musique. Et pour moi, les vêtements qu'on vend, ça représente un peu tout ce que j'aime dans...
C'est du montage.
Hein? Ouais, ouais, mais c'est ça.
Ouais, je sais pas, mais elle et moi, on adore, par exemple, les années 70, parce qu'on est d'une génération... qui avons vécu dans les années 70 et il y a tout un truc dans les films, dans la photographie, dans la manière de s'habiller, dans les films ou la musique. Elle aime le hip-hop, mais c'est plutôt dans les années 80. Moi, j'aime bien le funk, le machin, enfin. Puis tout ça, de toute façon, tous ces gens, toute cette culture entre guillemets alternative, je ne sais pas comment l'appeler, mais tous ces gens, ils avaient cette manière de s'habiller. Et puis, c'est pour ça aussi qu'on aime ce genre d'habit. Qu'on les sélectionne nous-mêmes sans poser la question à qui que ce soit, c'est juste des coups de cœur. Tout ce qu'on choisit, c'est nous deux qui le choisissons par rapport à notre éducation culturelle ou de ce qu'on a aimé voir des autres et ce que former dans notre tête comme truc cool qu'on aime bien, enfin, tu vois.
Mm-hmm. Ouais.
Et puis après, elle a fait aussi une collection de vêtements bien avant qui s'appelait Wellbehave, donc elle a fait des trucs, moi j'ai fait un peu de photos. On se débrouille, elle dessine, elle bricole, moi je suis plus sur l'ordi, elle a des idées, moi j'arrive à penser comment est-ce qu'on peut... Je dis ouais là c'est un peu trop compliqué parce que tu vois, nanana, alors on pense à autre chose qui est peut-être plus simple qu'on arrive à faire. On est autodidacte et puis on fait tout ce qu'on peut avec la motive et tout, et puis on utilise un peu tout ce qu'on sait faire de façon complémentaire parce que moi je sais pas dessiner, elle sait dessiner, je suis plus à l'aise. À l'ordi et elle moins, elle a plus d'idées, puis moi je suis plus à réaliser, mm-hmm. mais sans forcément penser à tout le projet, puis elle pense plus au projet, puis après on regarde comment on peut faire et tout. Mm-hmm. Et puis voilà, enfin je sais pas si ça répond
à quelque chose. Si, mais... après moi je voulais parler un peu de la musique, du montage, de l'assemblage, mais voilà, je pousse pas les gens à en parler, si tu veux pas en parler, de la musique.
Je sais pas quoi te dire.
Bon, c'est pas. C'est
moi,
pas...
je peux parler à sa place parce qu'il a une pudeur assez hallucinante. Il avait son groupe sur Jaffranche qui a absolument très très bien marché. Et puis maintenant, ça fait pas une année que t'as que. Donc il y a un des éléments de son Jaffranche qui a quitté le groupe, mais lui et Luca, ils ont continué à se voir. Et puis il y a des morceaux qui sont prêts là, qui sont terminés. Et qui devrait normalement d'ici décembre, voire début 2020, voir le jour. Donc c'est quand même. Et puis Tristan et moi, on s'amuse. Moi, je joue à la batterie, mais vraiment de façon très semi quelque chose, mais pas du tout professionnellement. Et puis pareil, on s'est amusé à faire genre un ou deux morceaux, commencer à bricoler des trucs. Et puis ça, c'est un peu, disons, pour Tristan, c'est beaucoup plus important. Ça, c'est quelque chose dans lequel il met quand même pas passablement beaucoup de temps, enfin du temps en tout cas. Et puis, pour nous deux, de faire des choses d'ordre musical ensemble, c'est un peu un espèce de sucre, quoi. C'est un truc qu'on aimerait... ça fait très longtemps qu'on en parle, ça fait très longtemps qu'on a envie de faire, mais on n'a jamais vraiment eu le temps. Parce qu'on ne veut pas tout faire, c'est ça. Et du coup... mais bon, la musique, en tout cas, lui et Luca, c'est vraiment quelque chose qui est quasiment achevé.
C'est ça. Mais, non, mais on est un peu victime de... Je crois qu'on est... Je ne sais pas comment on appelle ces gens-là, mais on aime bien... On a envie de faire plein de choses.
Vous êtes
beaucoup trop de choses.
Allez, pour rester neutre, sans être péjoratif et sans être
et ça mène,
trop mièvre non plus. Mais...
Ça mène pas mal de frustration parce que, comme tu l'as dit, on ne peut pas tout faire. Et puis, d'ailleurs, ce projet ici va faire encore...
plus de travail.
Plus de travail. Et puis, ça met forcément les trucs un peu personnels, entre guillemets, mais... On arrive maintenant à trouver un petit peu un mode de fonctionnement où on peut faire ce qu'il y a à faire au niveau du travail et aussi nos projets personnels. Et si tu veux, l'autre espace, vu qu'on a trouvé ici, eh ben, il va être dédié qu'aux trucs créatifs. Que ce soit musique, vidéo, couture, photo, etc. Et puis on va pouvoir... faire encore plus de choses, on espère.
Ouais, je voulais, c'est une bonne transition parce que en fait, pour revenir en fait à ces bâtiments, je sais que c'est aussi une expérience pour Eru d'être ici, parce que de nouveau on est dans un système de contrat temporaire avec tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça met, enfin, il y a beaucoup d'énergie qui va se déployer de ça quand on sait qu'il y a un couperet qui tombe. En principe, on produit plus, mais en même temps, on ne peut pas développer des choses sur le long terme. Il y a la question aussi que les loyers sont relativement chers par rapport à d'autres espaces en fait, dans la ville, donc ça met une certaine pression. On a aussi choisi en fait, sur concours plusieurs, différents dossiers. On a pratiquement accepté tous les dossiers qui s'étaient présentés, mais on a quand même dû faire des choix. Et c'est vrai que les choix, on a dû choisir des personnes qui avait quand même des projets viables. Et en même temps, on n'est pas, justement, on n'est pas des entrepreneurs, on est pur et dur, on s'adresse à des artistes qui ont une économie et puis une vie qui est organique, quoi. Et moi, je me suis posé la question, justement, sur des lieux comme celui-ci, qui appartient au patrimoine de l'industrie pure et dure, qui est d'une autre époque. Et le fait que tout d'un coup des artistes arrivent en fait dans ces espaces, il y a encore une mémoire, hein, il y a encore 2 ans, il y avait des ouvriers qui faisaient la grève, hein, enfin qui essayaient de faire la grève ici et qui ont été finalement licenciés. Et de se retrouver là, à porter en fait ces projets, tout en sachant qu'il faudra partir, peut-être. Et du coup, moi je me dis, parce que c'est quelque chose que j'observe et c'est une question que j'ai posée à tout le monde, tous ceux qui ont en tout cas un modèle d'entreprise, c'est-à-dire qui sont des entrepreneurs. Je pense à Bongo Joe, mais je pense aussi à la cité Vieux-Seux, où il y a aussi cette situation-là. Ce sont des artistes, ou en tout cas des gens qui ont une large formation d'artistes, mais qui ont des business, fait. Qui doivent déjà payer des loyers qui sont relativement importants, mais en plus qui doivent travailler, qui doivent produire, qui doivent faire quelque chose. Et moi, je me suis dit, honnêtement, c'est un peu comme les sportifs. C'est super, c'est très excitant, c'est très galvanisant si on aime ça, mais en même temps, on n'a pas beaucoup de protection. C'est-à-dire que si on est malade, si on a un problème, si, je ne sais pas, il y a quelque chose qui foire en fait, dans le parcours, on n'a pas de
filet de sécurité.
On n'a pas vraiment de filet de sécurité. Et puis, ça repose beaucoup sur soi, en fait. Si on ne se lève pas le matin, je dirais que c'est tous les entrepreneurs qui sont comme ça. Mais en plus, il y a cette obligation d'être inventif, d'être imaginatif, puis d'être nomade. Voilà, je voulais parler du nomadisme, du fait de devoir déplacer ses sacs, de changer de projet, de revenir en arrière, de laisser d'attendre avec ce projet, puis de remettre à plus tard, qui n'est pas dans une logique économique traditionnelle. Mm-hmm. Là, vous parlez des projets musicaux, etc. Parce que quand on y réfléchit, un projet artistique, c'est une mini PME qui pourrait se développer. Mm-hmm. Puis en même temps, c'est pas une PME, c'est autre chose aussi. Mm-hmm. C'est une expérience. Mmh. Puis les expériences, c'est pas économique, c'est pas rentable, c'est pas planifiable. C'est quelque chose de vivant. Ça suit son cours, ça va arriver quelque part. Ça, c'est sûr. Mais voilà.
On n'a aucune garantie de où et comment
c'est
et
ça,
quand.
Voilà. Ah ouais. Là, c'est un peu la dernière remarque que je voulais faire. Et puis je voulais savoir un peu comment vous vous sentiez par rapport à ces questions-là.
Ouais.
En fait.
Eh ben,
le devoir créer, ouais, en fait. Devoir de création et de voilà.
Alors moi, je pense que cet été, c'était vraiment un exemple pur et dur de ça. Quand on est arrivé dans les locaux, on a eu la clé, on s'est vraiment rué dans le truc, dans le projet. On va tout retaper, on va faire ci, on va faire ça. Et puis tout d'un coup, genre, moi, j'étais là, non, mais attends, parce que j'ai pas du tout envie, en fait, sur le moment, et je pense que Tristan, c'était le cas aussi, de mettre du temps pour cette entreprise d'ordre. J'ai envie de prendre du temps à faire de la musique, j'ai envie de prendre du temps à faire des choses beaucoup plus créatives. Et puis j'étais en plein rush justement avec les vêtements. Tristan, il avait aussi pas mal de trucs à faire pour la musique, et pour nous, et pour lui et Luca. Et du coup, bah, typiquement, ça, là, c'est pour ça que c'est comme ça, c'est que ça fait... ça, pendant tout l'été, on s'est dit, bon, maintenant, bah, rien, quoi. On va rien faire, et puis on paye dans le vide, mais on a pris... Enfin, c'est vraiment une question de prendre la décision et d'être en accord avec soi, ce dont on a besoin et envie, et de se dire, bah ouais, je vais payer, soyez dans le vide. Et puis, mais j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie d'être un entrepreneur pur et dur qui a un nouvel espace et qui doit le rentabiliser, donc qui doit agencer tout de suite, faire venir des gens tout de suite, vendre de la marchandise tout de suite pour pouvoir avoir les sous. On s'est dit, non, nous, on a envie de faire des choses actuellement, enfin pendant cet été, beaucoup plus artistique et beaucoup plus personnel, et puis on a vraiment décidé de ne rien faire.
Ouais.
Et
le dernier mot.
Non, mais c'est vrai, comme tu dis, ça dépend vachement de nous, en fait. Il faut se motiver le matin. Enfin, comment dire, c'est pas plus compliqué ni plus à l'aise que d'être dans le système et d'avoir un boulot fixe. Comme quelqu'un, enfin je veux dire, un gars qui a un boulot fixe et tout, il doit avoir des frustrations, ou il doit être mécontent de sa vie à certains moments et content de sa vie à d'autres moments, pour X raisons qui sont pas les mêmes que notre situation et celle de Bongo Joe et de plein d'autres. Nous, c'est pareil, on est content d'être indépendant parce qu'on peut décider quand est-ce qu'on fait un truc ou quand est-ce qu'on ne le fait pas, et en même temps, y a plein de moments où tu n'as plus envie et tu devrais faire, mais que tu n'as plus la force parce que tu as trop donné pendant quelques mois. Puis après, tu n'en peux plus. Et puis tu te dis, bon, là, on arrête. Et puis tu es un peu frustré parce que tu n'as pas avancé sur ton boulot, ou tu es frustré parce que tu ne t'es pas donné le temps de faire tes trucs personnels. Et des fois, tu ne te lèves pas et puis après, tu regrettes. Ou des fois, tu te motives et tu te lèves. Enfin, non, mais c'est le bordel. Mais en même temps, il y a quand même qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Et puis que si on est quand même assez motivé, relativement bien constitué, on va quand même avoir la notion de la responsabilité de faire ce qu'il y a à faire quand même. Et puis pour rien au monde, on retournerait dans un système basique, enfin classique, de se lever le matin, d'aller bosser de 8h à 17h. Et les gens qui font ça, ils sont certainement heureux. Mais ils ont des frustrations, puis pour rien au monde, ils seraient indépendants parce qu'ils préfèrent se faire driver par quelqu'un d'autre, même si c'est chiant.
Oh, moi, j'en connais. Mais oui, c'est chacun son truc.
Ouais, c'est
mais
ça.
Je parlais de ça plutôt d'un point de vue sociologique plutôt que psychologique. Mmh. C'est-à-dire que je vois, en fait, c'est super, en fait, d'avoir ces espaces, mais en fait, derrière, on voit qu'il y a vraiment une fragilité, déjà parce que, voilà, nous, en tant qu'élu, on n'a rien à voir avec les propriétaires qui gèrent en fait cet espace et qui sont dans une logique beaucoup plus martiale, on va dire. Et on voit que nos membres aussi sont... on était censé ouvrir au mois de mai. Moi, je pensais, j'ai dit, il faut vite que j'appelle tout le monde. Mm-hmm. Et puis, en fait, c'est pas parce que les gens n'ont pas de bonne volonté, mais c'est aussi parce que il y a une inertie qui est liée au fait que, on peut pas tout faire. Et puis... Et puis en même temps, effectivement, mais du coup, il y a des loyers qui tombent dans le vide. Et puis c'est nous qui devons prendre sur nous. C'est-à-dire, c'est vous. Et puis c'est les ressources urbaines pour d'autres choses, parce que nous aussi, on a pris du retard. Mm-hmm. Et du coup, par rapport à ce projet de Parker, et on a dû aussi payer des loyers dans le vide. Et puis du coup, ça va parce qu'on, en fait, c'est vraiment à l'image, je trouve, de l'hygiène de vie de l'artiste, c'est-à-dire qu'il prend énormément de choses sur lui sans s'en rendre compte. Mmh. En fait, c'est assez et ça demande en fait beaucoup d'énergie à la
énormément
base. Une hygiène de vie voilà.
Ouais, ouais, tout à fait.
Voilà. Ouais. Surtout en Suisse, ouais. Et à Genève,
non,
il n'y a pas vraiment beaucoup de possibilités pour les artistes. Il n'y a pas grand chose. Enfin, je dis en termes de subvention, enfin, c'est peut-être hors sujet, mais...
Ok. Bref.